La séance est ouverte à 19h28. Donc, je tiens encore à m'excuser auprès de toutes et tous pour le retard. Donc, ce soir, nous avons quatre procurations. Donc, M. Michel Janot qui donne procuration à M. Yvan Martouzet. M. Loïc Doma qui donne procuration à Mme Nathalie Nguyen. Mme Hélène Delifer qui donne procuration à M. André Fabrizio. Et Madame Danielle Jomme qui donne procuration à Madame Liliane Castagnoli. Secrétaire de séance, Madame Nathalie Nguyen. Les présents, tu les as déjà fait ? T'as noté tout le monde ? Ok. Donc, on va commencer ce conseil du vendredi 12 mars par l'approbation du procès verbal du conseil municipal du 19 février 2021. Le conseil municipal également convoqué s'est réuni dans la salle polyvalente compte tenu de la situation exceptionnelle liée au Covid-19 sous la présidence de Madame Marjorie Brémond, maire, afin de procéder à l'examen de l'ordre du jour. La séance est ouverte à 18h. Étaient présents Brémond Marjorie, Castagnoli Liliane, Doma André, Delifer Hélène, Fabrizio André, Giom Daniel, Martouzet Yvan, Nguyen Nathalie, Michel Janot, Sol Roger. Absent excusé, M. Loïc Doma, pouvoir donner à Mme Nguyen Nathalie. Mme Nathalie Nguyen, nommée secrétaire de séance. Mme Marjorie Brémond informe que la séance est filmée et diffusée en direct sur le site de la commune, Conseil municipal de la Peine. Approbation du compte-rendu du Conseil municipal du 15 janvier 2021 à l'unanimité. Monsieur Yvan Martouzet remercie Marjorie Brémond et Marie-Hélène Robert pour la qualité de l'information diffusée avant la séance du Conseil municipal. Délibération numéro 01-01-2021. Installation temporaire du nouveau Conseil syndical Sivom de Roux-Rebelle. Adopté à l'unanimité. Délibération numéro 02-01-2021. Convention de prestation d'audit et de vérification des points d'eau incendie desservis par les réseaux d'eau potable de la Régie des eaux Alpes d'Azur-Mercantour. Approuvé à l'unanimité. Délibération numéro 03-01-2021. Demande de subvention Association pour le développement des actions de santé pour le haut et moyen Estéron. Octroi d'une subvention de 100 euros. Approuvé à l'unanimité. Délibération numéro 04-01-2021, demande de subvention au Comité du Souvenir Français. Monsieur Roger Sol, président du Comité du Souvenir Français de la PED, explique brièvement le fonctionnement de cette association et la différenciation avec l'UNC, qui est une association fondée en 1920 et qui fait du social. Le Souvenir Français, association reconnue d'utilité publique, perpétue la mémoire des soldats morts pour la France et fleurit leur tombe lors de cérémonies, notamment le 8 mai. Pour information, il y a 2 ans, le Souvenir Français de la Peine avait refait le berceau des stèles des combes et du monument aux morts du village. Messieurs Sol Roger et Yvan Martouzet, membres de cette association, quittent la salle afin d'éviter tout conflit d'intérêts. Octroi d'une subvention de 100 euros, approuvée à l'unanimité des présents et représentés. Délibération numéro 05-01-2021, demande de subvention pour l'association Épicerie de la Peine. Monsieur Roger Sol précise que le courrier de demande de subvention n'est pas très explicite et Monsieur Michel Janot souligne le fait que des comptes auraient pu être produits. Les conseillers municipaux adhérents à cette association quittent la salle pour éviter tout conflit d'intérêts. Une subvention de 450 euros est proposée, approuvée à l'unanimité des présents. Délibération numéro 06-01-2021. Mise en conformité, installation électrique plus achat matériel informatique. Donc annule et remplace la délibération numéro 04-12-2020, prise lors du dernier conseil municipal du 11 décembre 2020. Suite à la visite du bureau de contrôle, un rapport a été rendu afin de mettre en conformité l'installation électrique de la mairie. Coût total du projet 3 703,16 € hors taxe, adopté à l'unanimité. Point sur les travaux. Antenne Free Mobile dans le cadre du projet New Deal Mobile. Madame le maire informe que le projet relais New Deal sur la parcelle privée de Monsieur Astegiano est finalement écarté du fait de l'impact visuel inesthétique et des débats importants suscités au sein de la population qui s'oppose à ce projet. De plus, la commune ne céderait pas la servitude de passage des réseaux enterrés sur la parcelle communale. La route menant à ce secteur est privée, la parcelle concernée ne semble pas avoir de servitude de passage selon les propriétaires du chemin. Afin de pouvoir continuer à bénéficier de ce relais 4G, deux emplacements alternatifs sont proposés. Ils ont été visités par Madame la maire, ses adjoints et Laurent Ferraud. Ils reposent sur du foncier public, communal ou départemental, avec une situation favorable en bordure de la route départementale d'Ascross et à distance des habitations. Un troisième secteur pourrait être étudié du point de vue radio qui se situe en forêt. Ce dossier est à l'étude. Monsieur Martouzet demande quand est prévue l'arrivée de la fibre optique. Madame la maire informe que les services concernés la prévoient pour 2022 minimum. Voûte de la rue du Pontis. Il a été constaté à plusieurs reprises des chutes de matériaux. Après l'étude du cabinet CEB, il en ressort que les poutrelles métalliques ancrées dans le mur du parking de la place de la Fontaine sont oxydées et érodées. Par conséquent, afin d'assurer la sécurité des usagers empruntant cet accès, la mairie a contacté rapidement l'entreprise Lejeune afin d'étayer la voûte. Rénovation de la façade de l'auberge. Une réunion de chantier a eu lieu afin de déterminer le choix du coloris de la façade et des volets. Après réflexion et compte tenu des dommages liés à la voûte du Pontis et des nombreux travaux à réaliser après une visite de l'auberge, il a été décidé de différer le déroulement de ces travaux. Élagage et débroussaillage ont été réalisés aux abords immédiats du village. Rénovation du bâtiment communal abritant l'école publique. Madame Guillaume Daniel informe le conseil municipal que les travaux consistent en la réfection de la toiture, l'implantation d'une pergola. La façade devrait être réalisée par la CCAA dans le courant de l'été 2021. La peinture de la salle de classe est prévue pour 2022. Poste de glissière, route de la Gagière. Les travaux réalisés par l'entreprise Perrotino sont terminés. Questions diverses. La commune de La Penne avait sous les précédentes municipalités et à partir de 2010 engagé des travaux sous la maîtrise d'œuvre de la CCAA. Madame la maire donne le détail de ces travaux dont le montant s'élève à 35 000 euros qui doivent rentrer dans l'actif de la commune. Madame la maire précise aussi que M. Michel Jeannot a définitivement quitté l'appartement communal qu'il occupait au 289 promenade du Jubilé. Il avait installé personnellement un insert pour lequel il souhaitait être dédommagé d'un montant de 100 euros. Madame la maire l'a indemnisé personnellement. Monsieur Yvan Martouzet souhaite débattre sur le fonds européen, programme leader, porteur de projet. Il précise que la fin de la rénovation énergétique des bâtiments communaux était fixée à 2021 et est reportée à 2023. L'équipe leader incite vivement les communes à porter des projets. Représentants de quartier. Madame la maire souhaite mettre en place des représentants de quartier qui seront à l'écoute des Pennois et pourront faire remonter les doléances. Les personnes désignées ont été contactées et ont accepté cette fonction. L'ordre du jour étant épuisé et les questions diverses débattues, la séance est levée à 19h. Fin du compte rendu. Donc, au niveau du compte rendu, donc, oui.
Si je peux, il y a un truc qui m'avait échappé, je suis désolé. En fait, c'est pas grand-chose, mais c'est quand on parle de leader, en fait, c'est leader qui est reporté à 2023. C'est pas juste la rénovation.
Oui, mais on a compris ça. Enfin,
moi, d'accord. J'ai compris ça, ok, d'accord. Ça. Bah, alors, je peux peut-être mal entendre.
Souhaite débattre sur le fonds européen pour un leader porteur de projet. Je précise que la fin de la rénovation énergétique des bâtiments communaux était fixée à 2021, mais dans le cadre du leader, on est d'accord ?
Non, enfin, leader, il est reporté à 2023, tout compris.
Oui.
Et ce que j'ai dit, c'est que effectivement, leader pourrait être une bonne entrée pour financer la rénovation énergétique des bâtiments, mais c'est leader qui est reporté à 2023.
Oui, mais moi, j'ai compris comme ça, parce qu'après, on peut même avoir encore 20 ans si on voulait pour rénover sur le principe. Plus vite c'est rénové, mieux c'est.
Non, j'entends bien, mais le programme leader, il est reporté jusque 2023.
Oui.
Et dans le cadre de ce programme, on peut effectivement faire la rénovation énergétique ou d'autres projets.
Mm-hmm. Non, mais moi, j'ai compris. Enfin, pour moi, c'était clair, mais après, s'il faut modifier, il n'y a pas de souci.
D'accord.
Alors, on en était où? Voilà, donc qui s'oppose au compte-rendu du conseil municipal? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc, du coup, voilà, approuvé à l'unanimité.
Je précise quand même que j'avais dit que les délibérations, enfin j'avais fait un mail pour dire que les délibérations subvention à l'auberge, subvention, pardon, excuse-moi, subvention à l'épicerie et subvention aux souvenirs français, elles étaient mal rédigées, dans le sens où il n'y a pas eu d'abstention. Les gens qui sont sortis pour conflit d'intérêts, ils n'ont juste pas voté, quoi.
Mm-hmm. Ok, ouais, c'est ça. Donc ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Alors, du coup, on va commencer donc par la première délibération. Alors, donc, je précise que la séance est filmée donc, et comment dire, qu'on peut la suivre sur la page Facebook Conseil municipal de la Paix, comme les autres fois. Donc, la première délibération, c'est la décide. Donc, c'est la demande de subvention donc, pour rénovation des bâtiments communaux. Donc, décide, ça veut dire. Alors, dotation, oui. Alors, donc l'ADCIL, c'est la dotation de soutien à l'investissement local. Donc c'est quelque chose qui doit être déposé auprès des services de l'État. Et le dossier, il doit être du coup envoyé avant le 19 mars 2021. Donc c'est pour cette raison que ce conseil municipal a été, on va dire, prévu de manière assez rapide. Et cette semaine, pour que la semaine prochaine, on puisse fignoler tout le dossier et le faire partir dans les temps. Donc ça concerne la rénovation thermique, la transition énergétique, sur les énergies renouvelables notamment, la mise aux normes et la sécurisation des équipements publics. Donc je ne sais pas si vous avez eu le temps de voir, en fait, pour simplifier le dossier, on a préparé un tableau par l'intermédiaire de Madame Marie-Hélène Robert, qui a repris en fait tous les devis qu'on a fait faire pour pouvoir déposer ce dossier, donc de manière à être le plus exhaustif possible. Donc comme il est possible que, en fait, on puisse encore en bénéficier dans les années qui arrivent, néanmoins, on a voulu essayer de faire quelque chose le plus complet possible. Donc si on prend le dossier, hein, on voit qu'on a un premier paragraphe qui est tout ce qui est mise en sécurité de l'installation électrique, avec le remplacement de chauffage par des chauffages à chaleur douce à fluide. Donc on a plusieurs, tous les logements en fin de compte, hein, qui sont concernés. Le logement de 4 placettes de l'école, c'est chez Madame Janine Cormier. Logement 240 route de la Para et 235 route de la Para, donc c'est les logements de Madame Lossy et Monsieur Baraillé, Monsieur et Madame Baraillé. Logement 4 placettes de l'école, c'est chez Monsieur Besançon. Logement 2 montées du Pigeonnier, c'est chez Madame Janine Cormier. Logement 88 route de la Para, c'est en bas, donc chez Monsieur Vincenzo Gallo. Logement 289 promenade du Jubilé, c'est l'ancien logement de Monsieur Michel Janon. Donc on arrive à des montants, donc, enfin, concernant la rénovation électrique et les chauffages, donc hors taxe de 28 157,79 €. Le deuxième paragraphe, c'est la mise en sécurité des installations électriques de l'église, de la chapelle, de la salle polyvalente. Donc on arrive à un montant de 5 529 €. Ensuite, donc, au niveau du bâtiment remise, donc, qui est tout en bas de la Para, compte tenu du fait qu'il n'y a pour l'instant pas d'éclairage et pas d'électricité, on a pensé à l'installation d'un panneau photovoltaïque sur la remise, de manière à ce qu'on puisse au moins avoir l'éclairage et un minimum, pour pouvoir brancher au moins un appareil dans ce local, qui pourrait servir soit encore au service technique, soit éventuellement, si on envisageait de le louer, on pourrait du coup au moins proposer au moins l'éclairage. Donc on arrive à un montant de 4 947,99 €. Ensuite, on a un paragraphe sur tout ce qui est rénovation thermique, donc ou installation de poêle à granulés ou remise aux normes du conduit de cheminée. Donc, il faut savoir que chez M. Michel Janot, le conduit de cheminée est inexploitable, inutilisable. Donc, on est obligé de le faire réparer. Autrement, bah, en fait, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, on arrive du coup là à un montant des travaux pour 6 145 €. Ensuite, paragraphe sur la rénovation thermique, réfection et isolation des toitures des logements communaux et de la mairie. Donc, le logement de Madame Jeannine Cornier, le logement... Ah oui, pardon. Oui, le logement donc, de Madame Cornillet, on a la toiture. Ensuite, on a prévu l'isolation des murs, puisque le logement n'est pas isolé. Ensuite, on a le logement de chez Enzo Gallo, où on doit refaire la toiture. L'isolation de toutes les combles de la mairie qui ne sont pas isolés. Et on arrive à un montant de 68 901 €. Ensuite, on a prévu une rénovation thermique avec l'installation d'une VMC également chez Madame Jeannine Cornillet pour un montant de 1 380 €. Ensuite, un paragraphe sur une mise en sécurité, réfection d'étanchéité, puisqu'on a de l'eau qui s'infiltre dans les locaux communaux qui sont sur la place. Donc, ça comprend le local des services techniques, l'épicerie. Enfin, le local qui est donc mis à disposition de l'épicerie, le local qui est mis à disposition du comité des fêtes et le local qui est pour vous ranger la voiture commune, enfin la voiture de la commune. Donc ça s'infiltre au niveau des parties électriques également. Donc on arrive à un montant de 16 688,75 € pour refaire l'étanchéité, hors taxe toujours. Ensuite, rénovation thermique, mise aux normes des menuiseries. Donc, on a le logement, une fois de plus, de Madame Cornillet, donc pour le remplacement de la porte, et les logements au niveau des gîtes de la route de la Para. Et on arrive à un montant de 13 676 €. Donc, l'idée, c'était de faire effectivement donc, le dossier le plus complet pour cette année. Et on arrive du coup à un montant de mise en conformité, donc rénovation thermique, etc., de 145 425,53 € hors taxe, soit un TTC de 166 197,64 €. Voilà. Donc du coup, bien évidemment, l'idée c'est de proposer, de demander une subvention au titre de la dotation de soutien à l'investissement local à DECIL pour l'année 2021. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions supplémentaires par rapport à ce dossier.
Oui, enfin la petite question, enfin, c'est juste une confirmation, c'est que donc les devis, ils ont été demandés pour permettre l'établissement de la subvention, et qu'ensuite, je veux dire, une fois la subvention attribuée, donc on passera à un truc classique.
Donc je tiens quand même à remercier mes collègues qui m'ont aidé à faire toutes ces démarches, parce qu'il a fallu qu'on aille plusieurs fois avec les professionnels. Je tiens aussi à remercier toutes les entreprises qui ont permis de monter le dossier, parce que ça a été quand même assez lourd pour pouvoir le faire dans les temps, puisqu'autrement on n'y arrivait pas. Et effectivement, une fois qu'on aura obtenu les subventions, j'espère les plus élevées, on verra ce qu'on pourra réaliser et dans quel temps. Derrière, peut-être qu'on portera justement une partie de ces dossiers devant l'équipe leader du PNR, puisqu'on voit que par le leader, on peut arriver aussi à avoir des subventions pour la rénovation thermique et tout ce qui est transition énergétique. Absolument. Et nouvelles énergies. Donc, qui est pour déposer cette demande de subvention des CIL ? Donc, c'est bon, approuvé à l'unanimité. Donc, c'est pas la peine que je... Qui est contre ? Qui s'abstient ? On a fait le tour. Je vais oublier une petite main. Donc, ça, c'est approuvé à l'unanimité. C'est la subvention numéro 1. Ensuite, on arrive à la délibération numéro 2, qui est l'occupation du domaine public pour l'année 2021. Donc, on a repris les demandes qui avaient été faites l'année dernière. Donc, on avait eu plusieurs demandes qui concernaient notamment... l'occupation de manière, on va dire, épisodique par le comité des fêtes, l'occupation également par l'épicerie, qui sont deux associations à but non lucratif. Et on a ensuite, association loi 1901 à but non lucratif, on avait également, donc, par exemple, Madame Anita Martinoli, qui est une artiste peintre de la peine qui exposait de temps à autre, et Monsieur Daniel Roman, qui installe son banc sous la halle le samedi matin. Donc, en fait, l'idée, c'est de leur redélivrer ces autorisations d'occupation du domaine public. Donc, par contre, ce que je vous propose, c'est qu'on a la possibilité de rendre gratuites ces autorisations pour tout ce qui est association, loi 1901 à but non lucratif. Par contre, pour tous les autres commerçants ou artisans, mais qui du coup vendent des produits, en fait, on est obligé de fixer une somme pour cette occupation. Elle ne peut pas être à titre gratuit. Donc, cependant, je pense que pour un petit village comme le nôtre, où l'idée c'est d'attirer du monde et de favoriser le commerce, que ça soit pour les producteurs, commerçants, ou également pour que ça crée une vie au niveau du village, je proposais en fait de fixer cette redevance à 1 euro symbolique à l'année, simplement pour qu'on ne puisse pas nous le reprocher, mais qu'effectivement on rentre réglementairement dans les clous de cette réglementation.
Mmh, d'accord.
Alors, est-ce que vous avez des remarques à faire ou...
Mais ça peut servir qu'aux personnes que tu viens de citer c'est ou à, non, après, ça sera... un bonhomme qui viendrait vendre des godasses. Ben...
Voilà,
ça
c'est ça, en fait.
Le même principe, oui. En fait. Donc, l'idée, c'est qu'on fixe cette redevance, par exemple, qu'on soit d'accord que pour toutes les associations, ça soit fixé, par exemple, à zéro, mmh. puisqu'on a le droit de le faire à titre gratuit. Mmh. Et que par contre, pour les commerçants, etc., à ce moment-là, on fixe une redevance minimale.
Oui, mais enfin, c'est la question de Roger. Enfin, justement, c'est. Mais si un mec vient pour des godasses, par exemple, oui. C'est un euro.
Il faut qu'il nous demande l'autorisation.
Oui.
Et ouais. À ce moment-là, on la lui délivre. Et
à un euro ou on peut se réserver le droit de le faire à. Mais... Je sais pas moi, en fonction, si tu veux, de.
Oui, alors après,
de l'intérêt pour la commune qu'on peut trouver à son, déballage. Quoi.
Si tu veux, autant je pense que dans certains villages, par exemple, si on cite, admettons, Puget-Aimier, qui est la commune la plus proche, ou des communes beaucoup plus touristiques, où là, à la limite, les gens vont se battre pour avoir un emplacement, ou par exemple, quand il y a le vide-grenier, faire des antiquaires à Puget-Aimier, où là, il y a la brocante, voilà. Où il y a une grosse demande, nous, chez nous, je pense qu'en fait, il n'y a pas de grosse demande et qu'au contraire, l'idée, c'est de favoriser les gens parce que ça crée un service pour nos habitants qui vont trouver des commerces de temps à autre. Donc, que ça soit un camion à pizza ou une autre épicerie ambulante qui passerait ou des vêtements. Enfin, moi, je ne suis pas contre, hein, au contraire.
Hein. Non, je suis assez d'accord. C'était simplement savoir si on se réservait le droit, tu vois. Pour un commerce dont on ne voit pas nécessairement l'intérêt pour la commune, tu vois, de lui faire à plus, j'en sais rien. Moi.
Voilà, non, mais après, on peut aussi décider hein, de.
Il faut avoir peut-être du bon lait pour venir.
Mais après, ça risque de devenir vite une usine à gaz, quoi.
Oui, je suis d'accord, mais après,
comme
tu le dis, il ne va pas y en avoir 40 000. Bah, donc,
après, on pourra toujours redélibérer. En fait, à partir du moment où on prend une délibération et qu'on fait un arrêté, si un jour, effectivement, on se rend compte que. On est victime de notre notoriété.
Oui, on peut toujours réaménager.
Succès, et ben, on reprendra une nouvelle délibération et on modifiera les conditions.
Exactement.
Là, je pense que pour l'instant, on arrive encore à gérer à la bonne franquette, même pour les marchés de Noël, où les gens sont quand même assez raisonnables. Et pour l'instant, on arrive à...
Donc, ça marche.
Je propose que ça soit de gratuit pour les associations et à un euro symbolique pour les autres commerçants. Donc, qui est contre cette proposition? Qui s'abstient? Qui est pour? Adopté à l'unanimité. Donc on on a déjà reçu les demandes qui nous ont été faites. Donc, on avait Madame Martinoli, l'écrit, Daniel Roman et le comité des fêtes. On a eu les cartes. Voilà. Alors, délibération numéro 3. Donc, numéro 303-2021. Donc, on a pu constater en fait que l'auberge, lors de la visite qu'on a faite avec un architecte et un bureau d'études, qu'il y aurait beaucoup de travaux de rénovation de manière à la remettre en conformité et en sécurité. Ça va être quelque chose d'assez complexe. Et en fait, clairement, notamment par rapport à tous les dossiers qu'il va falloir déposer et à toutes les demandes de subventions, comme c'est un projet qui va être très important, je propose du coup de confier la maîtrise d'ouvrage à la communauté de communes Alpes d'Azur. Donc dans l'idée, c'est qu'ils font toutes les démarches, toutes les études, et que vraisemblablement, ils peuvent même avancer les frais en fait de toutes les opérations qui seront réalisées. Donc ça permet de mener à bien ce projet et d'une manière très globale et de ne rien oublier en termes de démarches administratives. Donc voilà, c'est simplement le confiage de la maîtrise d'ouvrage de la communauté de communes Alpes d'Azur. Donc, qui c'est qui s'est levé ? Alors, est-ce que vous avez des questions ?
Ben ouais, j'ai une petite question.
Voilà.
quand tu dis... que tu expliques donc qu'il convient de mettre en conformité. On parle de quoi ? On parle par exemple de la cuisine, de la mettre en conformité.
Donc en fait, moi je connaissais un peu l'auberge de par mes fonctions professionnelles. Clairement, en fait, au niveau sécurité incendie, elle est plus du tout aux normes. Et en fait, bon, on a du coup essayé de commencer à voir un peu ce qu'il en était. Donc, on a fait une visite avec des professionnels. Donc, il y avait un bureau d'études, un architecte. Et on s'est rendu compte que ça serait très complexe, puisque par rapport notamment à la sécurité incendie, risque de panique, en fait, il y aurait de trop nombreux travaux à réaliser. Mais également, en fait, tout ce qui est réseau et puis rénovation énergétique, etc., ça va être un très, très gros chantier, puisqu'il va falloir absolument tout refaire, en fait. Donc, ça part de l'ancienne partie hôtel, la partie restauration, bien sûr, et les chambres qui sont en dessous. Donc, on parle bien de la rénovation entière du bâtiment. Donc là, pour l'instant, on est juste, en fait, on n'a pas encore travaillé sur les évolutions et sur le devenir en lui-même du bâtiment. Clairement, l'idée, ça serait de continuer à faire un commerce. Mais peut-être de voir des choses différentes pour que ça soit quelque chose de rentable pour la commune. D'accord. Et d'acceptable pour un futur repreneur. Quoi.
C'est-à-dire aujourd'hui, par exemple, puisqu'on prend l'exemple des chambres, donc on ne sait pas si c'est chambre d'hôte. Enfin, tu vois, ce n'est pas la même.
Non,
la mise en conformité de chambre d'hôte ou d'un hôtel, ce n'est pas du tout la même chose. Quoi.
Donc en fait, on a bien réalisé que la partie hôtel ne pourrait plus être utilisée en tant qu'hôtel, puisqu'elle est trop vétuste et trop éloignée de la réglementation. Et donc, on verra comment on tourne le projet de manière à le rénover, en gardant probablement une partie restauration, une partie hébergement, donc on ne sait pas encore le statut, commercial, on va dire. Et peut-être du logement, en fait. Voilà. De manière à ce que l'auberge en elle-même soit plus rentable et qu'on puisse la rénover dans sa globalité.
D'accord, je comprends. Donc la mission qui est confiée à la CCA, c'est la rénovation, la mise en conformité donc, du restaurant.
Non,
c'est pas tout,
en fait. C'est la rénovation de tout le bâtiment.
De tout le bâtiment.
Et donc ça veut dire qu'ils vont prendre la maîtrise d'ouvrage.
C'est un gros chantier.
Donc ils vont faire appel à des architectes, des bureaux d'études, qui vont commencer à travailler sur le projet, sur sa réalisation,
donc,
sur les possibilités qu'on peut faire dans ce bâtiment. Mais on reste décideur, en fait.
D'accord.
C'est simplement le montage des dossiers, que ça soit technique et financier. Quoi.
D'accord. Donc si dans un deuxième temps, on décide qu'on veut effectivement continuer à faire de la restauration, il faudra passer à la mise en conformité du matériel professionnel de restauration.
De tout, en fait. Il faut tout refaire.
Non, je suis d'accord, mais c'était pour savoir, si tu veux, dans un premier temps, je veux dire, ce qu'on confie à la CCA. Quoi. On lui dit, écoute, voilà, remets-moi le restaurant conforme, les bâtiments,
tu vois. On leur confie tout le bâtiment parce qu'on s'est rendu compte qu'on ne peut pas rénover une partie sans rénover le reste. Donc, comme il faut partir d'en haut et redescendre jusqu'en bas, en fait, la rénovation, elle va être prise dans son ensemble. Mais on ne sait pas encore exactement comment les parties vont s'articuler et vers quoi on va s'orienter. Puisque l'objectif, c'est d'arriver à trouver quelque chose qui soit le plus rentable et le plus, plus harmonieux. Quoi. Voilà, je vais dire ça comme ça.
Et qu'est-ce que je veux dire ? Tu as des nouvelles quant à la, comment on appelle ça ? À la subvention pour le rachat ?
Non, toujours pas.
Non, toujours pas.
Oui. J'ai encore relancé la région et pour l'instant, on n'a pas de retour. Donc voilà, donc j'espère que ça va se débloquer assez rapidement parce que c'est vrai que du coup ça détermine tout le reste quoi. Et là encore on a pris un peu les devants parce que bon, monsieur et madame Poulet, Benoît et Maria nous ont laissé visiter pour qu'on puisse apprécier en fait la situation. Mais effectivement, tant qu'on n'a pas acheté, c'est compliqué de, voilà, d'avancer quoi.
Vous avez demandé de vous voyer.
Oui, mais ça fera l'objet d'une délibération au prochain. Oui, Dédé, mais en fait, il faut que je l'ai eu, Maria, il faut qu'elle nous fasse un courrier. Parce que sans courrier, on ne peut pas l'étudier, en fait. Donc on le verra au prochain conseil. Je l'ai eu tout à l'heure, là, elle m'a demandé, mais comme c'était pas. Elle n'avait pas formalisé, en fait. Voilà. Donc, qui est contre le confiage de la maîtrise d'ouvrage à la communauté de communes Alpes d'Azur ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Adopté à l'unanimité. Alors, on arrive à la délibération numéro 4. Le comité, donc, alors, on a reçu la demande de l'association des anciens combattants et victimes de guerre de Roquestéron.
Pardon. Alors là, comme ça me concerne, je sors.
Oui, juste je présentais, quoi.
Voilà, oui.
Donc, en date du 9 janvier 2021, vous êtes président aussi, c'est ça, hein, Roger ?
Alors, je suis le président depuis un an et demi. Tu m'as marqué là les subventions qui ont été accordées en 2017, 18 et 19. En 2020, j'ai rien demandé.
D'accord.
C'était ma première année, j'ai rien demandé. Et là, bon, ce coup-ci, on a demandé. C'est pour, comment dirais-je, c'est une association loi 1901 aussi, qui est à but, si tu veux, social. Pour les anciens combattants, tous les anciens combattants. Mais enfin, maintenant, il ne reste plus que ceux d'Algérie. Parce que tous les autres, bon, ils ont passé l'arme à gauche, malheureusement, bien entendu. Mais je ne cache pas que c'est une association qui est appelée à disparaître. Parce que même si il y a encore quelques OPEX, moi, j'en connais, ils sont très peu nombreux. J'en connais, par exemple, qu'un à Tourette du Château. Il y en avait un à la peine, malheureusement, il est décédé il y a 5 ans. Et il y en a un troisième qui, actuellement, enfin, il a fait le Mali, il est en Nouvelle-Calédonie, mais il n'est pas de la peine. Bon, il a sa mère qui habite ici, mais bon. C'est une association qui, moi, à mon avis, dans 10 ans, il n'y a plus personne.
D'accord.
Voilà.
Okay. Merci pour tes explications. Alors, donc, du coup, on avait reçu cette demande de subvention donc, en date du 9 janvier 2021. Donc, par rapport au fait qu'on avait alloué une subvention de 100 euros à l'association des anciens combattants de la peine, je proposais d'allouer une subvention de 50 euros à l'association des anciens combattants et victimes de guerre de Roquestéron. Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Adopté à l'unanimité. Alors, pardon, je cherchais. Ah oui, merci. Donc, on arrive à la délibération numéro 5.
Mauvais signal, on avait été contre.
La demande de subvention amicale des sapeurs-pompiers de Puget-Théniers. Donc, on a reçu une demande de subvention en date du 7 février 2021, donc de l'amicale des sapeurs-pompiers de Puget-Théniers. Donc, c'est le centre de secours compétent sur la commune et sur les communes voisines. Donc, en fait, ils nous rappellent qu'ils organisent au cours de l'année plusieurs activités sportives. Je crois qu'ils ont organisé le tournoi de foot cette année, il me semble. La traditionnelle fête de la Sainte-Barbe ou l'arbre de Noël pour les enfants des sapeurs-pompiers. Donc voilà, donc ils nous demandent une subvention. Donc je propose d'allouer une subvention de 100 euros. Qui est contre? Qui est pour? Adopté à l'unanimité. Je me suis trompée. Ensuite, on arrive à la demande de subvention de l'Association départementale de protection civile des Alpes-Maritimes, donc en date du 18 janvier 2021. Donc c'est une demande de subvention exceptionnelle qui a été déposée. Donc en fait, la protection civile des Alpes-Maritimes donc réalise depuis plus de 50 ans les missions de secours et d'assistance lors de manifestations culturelles ou sportives sur tout le territoire des Alpes-Maritimes, des formations de secourisme aux particuliers et professionnels, des missions de soutien aux populations, conformément à l'article 2 de leur statut. Alors, cette année, en fait, ils ont été très impliqués, notamment dans le cas de la crise sanitaire, mais aussi lors de la tempête Alex dans les vallées sinistrées. Et donc, ils ont réalisé un cumul de 18 255 heures de bénévolat. Le problème, c'est qu'en fait, parallèlement à tout ça, donc ils nous rappellent que leurs activités sont financées par les postes de secours qu'ils tiennent pendant des manifestations, donc dans le cadre de mise en place de dispositifs de secours pour les grandes populations, et également pour les activités de formation. Et en fait, avec la crise Covid, ils n'ont pas pu réaliser d'activités cette année qui permettent du coup de financer tout leur matériel, etc. Et en fait, ils nous expliquent qu'ils doivent également renouveler l'ensemble de leurs uniformes qui sont obsolètes pour 250 secouristes engagés sur les Alpes-Maritimes. Donc en fait, compte tenu de cette demande qui est quand même assez justifiée et détaillée, donc c'est une demande de subvention exceptionnelle parce que c'est vrai que c'est une année qui a été bien particulière entre le Covid et la tempête Alex, je propose d'allouer 100 euros à cette association pour l'année 2021. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Adopté à l'unanimité. Donc on a terminé avec tout ce qui est délibération. On arrive au point sur les travaux. Alors, vous avez pu constater que les travaux d'élagage au niveau du village, qui avaient été pris en charge par l'entreprise Grasso, ont été terminés. Donc, au-delà de tous les espaces verts, on a également des arbres qui ont été élagués. Le micoucoulier, qui est aussi celui qui est près de l'église, le tilleul, et les deux arbres qui sont sur la place de la mairie. On a également le lierre qui a été taillé au niveau du mur du parking du haut du village. On a également enlevé le figuier qui poussait au niveau de la voûte du pontis, puisque du coup ça a accentué les dommages donc dans tout le mur. Voilà, donc ça c'est les choses qui ont été réalisées en début d'année. On a également réalisé l'état des lieux de tous les logements communaux, puisque vous avez vu qu'on a pu réaliser le fameux dossier des CIL. Et parallèlement à cette demande de subvention pour tout ce qui est rénovation énergétique, on envisage de réaliser d'autres petits travaux donc dans les habitations. Donc, par exemple, la réfection de la salle de bain de chez Jeannine Cornillet, qui est très vétuste, la mise en place d'une grille pour récupérer l'eau, le pluvial, en fait, à l'arrière, justement, du bâtiment de Madame Cornillet. Et on doit également mettre en place rapidement un garde-corps chez ex-Michel Janot, puisque en fait, on a une balustrade sur la terrasse qui faisait que 70 cm. Ouais. Et du coup, on avait un risque que les gens montent sur le petit appentis et chutent de la toiture. Donc ça, c'est les travaux qui sont envisagés avec d'autres petits travaux que nous ferons plus tard, quoi, au cours de l'année. On a également déposé un dossier auprès de notre assurance, qui est Groupama, si je ne me trompe pas. Donc, on a constaté qu'il y avait le garde-corps en bas, enfin, au niveau du parking, qui monte des escaliers, donc sous la mairie, qui avait été enfoncé par une voiture. Et également, le mur de la mairie qui avait été abîmé par probablement des camions de déménagement ou de livraison. Donc, on a déposé ces deux dossiers auprès de l'assurance et on a déjà eu une réponse favorable pour le garde-corps. Donc, on a une franchise d'environ 230 € qui nous est appliquée, mais ils prennent en charge plus de 700 € de travaux pour remplacer ce garde-corps. Alors, est-ce qu'on a d'autres choses à évoquer dans les travaux? Je ne pense pas. Le reste avait été évoqué au cours du dernier conseil.
Qu'est-ce que je veux dire en parlant de travaux? Au début du mandat, là, il y a eu des... Ben, je crois que toi, tu y étais avec Loïc pour faire des barrières, si tu veux.
Des garde-corps, oui.
Oui, alors en fait,
des garde-corps.
Tous les dossiers qui ont été déposés l'année dernière, ils sont toujours en cours.
Ah oui.
Donc on a le dossier de la calade qui est toujours en cours. Le dossier de tout ce qui est prolongation ou mise en place de garde-corps qui est toujours en cours de traitement en fait. Quelque chose qui est assez important de souligner, c'est que grâce à l'implication de Marie-Hélène Robert, donc pour les demandes de subvention, on a déjà pu récupérer aux alentours de 50 000 € de subventions pour les travaux d'intempéries de 2019. Donc on a eu la part de l'État ainsi que la part du département qui ont déjà été alloués. Et là, on attend la réponse de la région pour compléter du coup cette demande de subvention. Donc, je rappelle que ces travaux étaient de l'ordre de 84 000 € quand même. Donc, les travaux qui avaient été réalisés en urgence pour réparer la route de la Couette et la route de la Gagère. Donc, on a monté les dossiers a posteriori en récupérant tous les documents. Et là, on a déjà récupéré plus de 50 000 € de subvention. Donc, ce n'est pas négligeable parce que ça faisait un sacré trou dans le budget. Je crois qu'on a fait le tour. On peut passer aux questions diverses. Alors, dans les questions diverses, donc je voulais vous présenter du coup la liste des représentants de quartier du coup, que nous avons que nous avons sollicité. Donc je vais vous la lire. Donc sur le quartier de la Gagière. La représentante de quartier, ça sera Madame Sandra Alzéal. Concernant le quartier de Beuseuge, donc jusqu'au col Saint-Raphaël et y compris donc, la descente jusqu'à l'embranchement de la Gagière, l'adré là, de Ciodo. Donc on a mis Dominique Giraud, donc plutôt pour la partie haute, et Sébastien Gillet, plutôt du coup pour la partie basse. Ensuite, donc, la route, la RD, donc, du col Saint-Raphaël jusqu'à l'embranchement de la Gagière et un peu après, là, jusqu'à Chambaudoin. Donc, en fait, la limite entre la commune de La Penne et la commune d'Ascross au niveau de la Massière, là, le petit vallon, là. Donc, y compris, bien sûr, le perron, c'est M. Jean-Marie Blond qui sera représentant de quartier. Au niveau de Bonchamp-Mouliéras, c'est Clémentine Chière qui est représentante de quartier. Concernant le bas de la commune, donc la Théoulière jusqu'au pont de l'Aille, c'est Marc Lazari qui est représentant de quartier. Pour le village, c'est Emmanuel Sol qui est représentant de quartier. Pour le quartier Pinot, c'est Virginie Ouvrerie. Pour la Crouette, c'est Dominique Mazzoni et Fabrice Girello. Pour le lotissement et la Sorbière, c'est Monsieur Jean-Yves Martin. Pour le quartier Le Collet, Le Puy, La Reine, c'est Alain Louvet. Pour le plan, c'est Monsieur Daniel Missouri. Et pour Champ d'Astier, c'est Raymond Gauthier et Georgette Braganti. Voilà. Donc toutes ces personnes, elles ont été contactées. Elles ont accepté du coup de nous faire remonter les problèmes qu'on leur présenterait ou éventuellement qu'elles constateraient en ayant une activité dans leur quartier. Et éventuellement, elles pourront aussi faire redescendre des informations. Donc, par exemple, l'autre jour, quand on a eu une coupure d'eau, on a contacté les personnes concernées. Et en fait, l'idée, c'est d'avoir des échanges avec la population, de toucher un maximum de personnes, donc d'horizons différentes aussi, pour qu'on puisse, du coup, avoir des remontées les plus exhaustives possibles. Voilà. Donc, cette feuille, en fait, elle sera donc diffusée et elle sera affichée sur les tableaux d'affichage de la commune. Et tous les représentants de quartier en auront connaissance également, de manière à pouvoir échanger entre eux s'ils ont effectivement des choses à discuter avant de nous en faire part. Est-ce que vous avez des questions ?
Sur ça, non, mais j'avais des questions, tu me diras.
Oui, quand,
d'accord. J'en ai d'autres que celles que je t'avais...
Alors, en ce qui concerne donc les questions que tu nous as fait remonter, Yvan. Alors, les énormes tas de terre, de cailloux entreposés dans le virage de l'ancienne Syrie. Donc, je pense que tu veux parler des tas de terre qu'on a dans le virage avant d'arriver au village.
C'est ça.
Parce
ouais.
que tu as dû nous voir passer peut-être l'autre jour quand on allait voir.
Non, ça fait longtemps que c'est là.
Ah, d'accord.
En fait, la question, elle est double, c'est de savoir combien de temps ça va durer et que devient le chemin de randonnée qui passe à cet endroit.
Voilà. Alors en fait, moi, la question, je me la suis posée dès cet hiver, parce que j'ai constaté qu'ils avaient entreposé ça là. Je me suis d'abord effectivement inquiétée de l'eau et de la boue qui coulait sur la route, parce que ça pouvait éventuellement créer des accidents. J'ai également constaté que le chemin de randonnée, du coup, était impacté. Et au-delà de ça, nous, bien sûr, on se demandait ce qu'il en était de ce terrain. Donc, ce terrain, il faut savoir que c'est une délaissée départementale, qu'elle n'appartient pas à la commune. Donc, j'ai contacté M. Honorati, qui est venu nous rencontrer, qui nous a confirmé tout ça, qui nous a dit qu'effectivement, il en avait bien conscience et que l'idée, c'était pas de le laisser là, mais que c'était une des seules zones, on va dire, du secteur qu'il avait pour pouvoir entreposer des matériaux. Donc, d'après les informations qu'on a, ces matériaux, ils vont servir à l'élargissement de la route quand on descend vers le pont de l'Aille. Donc, toute la zone où on a des ponts étroits, en fait, ils envisagent de les élargir.
J'espère un peu, parce que là...
Voilà. Et donc, du coup, ça va permettre de remblayer pour élargir la route. Donc, ça, c'est une chose
qui risque de durer plusieurs années, de comprendre.
La chose qui est aussi très intéressante, c'est que du coup, a priori, on a convenu avec M. Honorati qu'il allait nous mettre à disposition un morceau de ce terrain pour en faire une zone de stockage des encombrants pour la commune. Alors, puisque du coup, ça permet de faire la transition sur ta deuxième question. Tu as vu comme je suis quand même dessus.
La deuxième question, je vais te la détailler comme j'ai détaillé la première, si tu veux bien.
Pas de souci.
Donc après, ce n'est pas des questions de Roger, Michel et moi, hein, c'est des questions qui nous ont été remontées par des habitants.
Je comprends. Mais nous, si on se pose les mêmes questions, ça tombe bien parce qu'on a déjà les réponses.
C'est parfait. Donc selon leur situation géographique, leur âge, leurs habitudes, la nouvelle formule pose des problèmes ou amène des réflexions. Donc on parle des poubelles. Obligation de prendre la voiture alors qu'auparavant, le point de collecte était accessible à pied. Bac très difficile d'utilisation car les couvercles ne tiennent pas seuls. Sac de 100 litres impossible à déposer. Couvercle de bac sale, environnement immédiat de bac sale et encombré de cartons et déchets divers, décision de ne plus trier car trop de contraintes désormais, Inutilité des abris à poubelles, pourtant adaptés et pratiques lorsqu'ils abritaient les anciens baraques.
Bon, alors on a toutes les réponses, donc ça tombe bien.
Ben, super.
Comme quoi, on se pose tous les mêmes questions, donc c'est magnifique. Alors, donc, nous avons contacté M. Gauthier Buffaut, qui est le nouveau responsable au niveau de la communauté de communes Alpes d'Azur, donc de la collecte des déchets, donc qui est venu nous rencontrer en mairie, avec qui nous avons fait tout le tour des points de collecte. Et donc, effectivement, j'avais évoqué les points de collecte qui étaient saturés. J'avais également évoqué si on pouvait rajouter des points de collecte. Ensuite, j'avais évoqué le broyage des végétaux, des cartons. Ensuite, on avait évoqué une zone réutilisable pour éviter le gaspillage. Ensuite, on avait évoqué les couvercles qui étaient gênants, qui ne tenaient pas ouverts seuls, les trous qui étaient trop petits, les tambours petits en cas de gros sac poubelle, et éventuellement même de gel parce qu'ils se bloquaient. Les encombrants, et enfin, on avait même évoqué le fait que notre panneau d'affichage du col Saint-Raphaël avait été, était presque inutilisable puisque coincé derrière les silos. On a également pu remarquer qu'il y avait des gravats qui avaient été laissés aux abords des silos, des gravats et des morceaux de goudron, de la phase travaux, on va dire. Et on a évoqué tout ce qui était nettoyage des points de collecte. Donc voilà. Donc alors, il a fait le tour avec nous. Donc on a pu constater, alors il nous a expliqué qu'aujourd'hui les silos ils avaient été choisis et qu'il n'avait pas pour l'instant de solution à nous apporter concernant les tailles des ouvertures et les couvercles qui ne pouvaient pas rester ouverts. Donc il nous a dit que c'était à l'étude, mais qu'en l'état actuel des choses, il n'avait pas de solution, que l'idée d'avoir des trous assez petits, c'était justement pour éviter les problèmes d'incivisme de gens qui jettent leurs sacs poubelles, par exemple, dans le recyclable ou d'autres choses comme des gros cartons, enfin des choses comme ça. Donc, c'est sûr que... Bon. Ensuite, donc, il nous a dit qu'il allait voir pour faire installer peut-être un système qui permet de bloquer le couvercle. Donc, ça, c'est à l'étude puisqu'il faut faire des devis. Donc, il nous a suggéré que si localement, nous, on arrivait à mettre un système en attendant, que pour l'instant, il n'avait pas mieux à nous proposer. Ensuite, on a fait le tour des fameux points de collecte, et notamment au moins au lotissement où pour l'instant il y a des bacs anciens en fait. Il nous a expliqué que ces bacs ils étaient appelés à disparaître puisqu'ils n'ont plus de camions qui permettent de faire le ramassage des bacs anciens. Et donc on a vu pour essayer d'installer les conteneurs cubiques là, extérieurs en bois, qu'on voit par exemple à Pugéténier à certains endroits.
Il y en a à Saint-Pierre, oui, comme ça.
Voilà, il y en a à la coopérative à Pugéténier, là sur le bord de la route.
Oui, je crois, oui.
Bon, après, j'ai pas fait tout le tour, mais je sais qu'il y en a notamment là. Donc, on va peut-être voir pour installer, du coup, en remplacement des anciens bacs au niveau du lotissement, ce genre d'installation. Et on a également proposé d'en installer au croisement entre Pinot et Champ d'Astier, où il y avait avant un point de collecte. Puisque du coup, ça évite aux gens de Pinot et de Champ d'Astier soit de descendre jusqu'au plan, soit de monter jusqu'au village ou jusqu'au col Saint-Raphaël. Donc là, aujourd'hui, on en est là.
D'accord.
Donc bien sûr, il est ouvert à toute proposition et il essaye petit à petit de mettre en route le service avec des tournées qui soient judicieuses et optimisées. Voilà. Donc, il nous a expliquer que pour l'instant, il partait sur deux tournées d'ordures ménagères et une de recyclables par semaine, donc en période hivernale. C'est-à-dire que si en période estivale, il se rend compte que ce n'est pas suffisant, il pourra augmenter éventuellement le nombre de tournées. Ensuite, il nous a expliqué qu'on allait avoir deux tournées, enfin aujourd'hui, il y a déjà en fait deux tournées d'encombrants par semaine. C'est-à-dire que, notamment, M. Vincenzo Gallo, qui s'occupe du ramassage des encombrants, tourne deux fois par semaine et ramasse les encombrants localement au niveau des silos, enfin des points de collecte. Donc du coup, nous, c'est pour ça qu'on a justement suggéré que ce n'était pas très propre, parce que ça génère des tas à proximité des silos, d'où l'intérêt d'avoir trouvé ce point de collecte pour le village, qui permettrait aux habitants du village de stocker leurs encombrants et ensuite que ça soit récupéré de manière plus simple et que ça soit moins, on va dire, que ça gâche moins le, l'aspect du village, quoi, le, l'environnement autour des silos. Donc on a également convenu qu'on allait mettre en place des grillages donc, qui encadrent les silos avec un brise-vue, de manière à cacher un peu les silos, bon, même si ce n'est pas ce qu'il y a de plus moche, ce n'est pas non plus ce qu'il y a de plus esthétique, et surtout pour qu'en cas de chute de déchets, qu'ils restent du coup à côté des silos et qu'ils ne soient pas emportés par le vent à plus, dans les prés environnants. Donc ça va être fait au niveau des trois points de collecte enterrés, donc des trois zones de silos.
Mais c'est eux qui le font ?
Oui. C'est la CCA qui va, enfin le service du coup collecte ordures ménagères qui va s'en occuper. Ils vont également procéder au déplacement de notre panneau d'affichage du col, de manière à ce qu'on puisse s'en servir de manière plus confortable. Et ce qu'il va mettre aussi en place, c'est qu'ils vont étayer leur service. Il va y avoir plusieurs personnes qui vont s'occuper de l'entretien et donc du nettoyage des abords des silos et de tout ce qui est, on va dire, système de couverture. Et éventuellement, tout ce qui est aussi mise en place de système de maintien des couvertures. Donc ça, c'est son personnel qui est en train de recruter, qui va ensuite faire la tournée pour pouvoir faire tout ce qui est entretien. Voilà. Enfin, on nous a confirmé hein, qu'il y avait un broyeur à végétaux qui avait été acheté par la communauté de communes Alpes d'Azur et qui va tourner en fait sur tous les villages de la CCAA. D'accord. Donc, on aura un calendrier qui sera mis en place. Il sera du coup a priori attelé derrière un véhicule. Il se rendra au village avec une période d'une demi-journée ou de quelques heures. Je ne sais pas encore comment ils vont faire leur calendrier. Et d'après les informations, donc les habitants pourront amener leurs déchets verts, les broyer et récupérer le broyat pour pailler, par exemple, des cultures.
Très bien. Et gratuitement.
A priori, gratuitement.
D'accord,
ça
super.
Sera un service parfait. De la communauté de communes à Pédation.
Nickel.
Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions.
Je ne sais pas, c'est les gens qui les ont posées qui le diront. Donc j'avais un autre point donc, qui concerne cette fois des nuisances sonores dont certaines personnes se plaignent. Alors, ces nuisances, elles sont dues à des allers-retours intempestifs sur le chemin de l'église, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui se garent place de la mairie. Et le chien, là, donc ça doit être chez Vincenzo, j'imagine.
Peut-être.
Voilà, en bas, la maison Lachise, la maison anciennement d'Axel, donc qui aboie toute la journée. Voilà.
Bon, après, les gens, ils peuvent aussi aller le rencontrer et le lui dire. Hein. Je pense qu'avant que la mairie se mêle de conflits de voisinage, on peut très bien aller gentiment dire aux gens, tu sais, pendant que tu n'es pas là, ton chien, il aboie. Parce que le propre d'un animal, c'est que souvent, ils aboient quand on n'est pas là. Donc, si en fait, on ne le sait pas et qu'on ne nous le dit pas, on ne peut pas régler le problème. Donc ça concerne les nuisances sonores.
Voilà, après,
au niveau de l'église, qu'est-ce que tu dis de l'église ?
Oui, c'est le fait qu'il y a plus de gens qui se garent au niveau de la... C'est pas l'église, en fait, ça doit s'appeler la rue de l'église, la rue qui va...
C'est la place de la mairie,
où il y a de plus en plus de stationnements, donc ça génère du trafic sur le... Qu'est-ce que vous appelez la rue de l'église ? Je ne sais pas bien. La rue, si tu veux, qui permet de rejoindre le promenade du Jubilé, quoi.
D'accord.
Voilà.
Et là, il y a des gens qui se tiennent.
Devant la mairie ? Tu te gardes devant la mairie ?
Alors, moi, je me garde devant la mairie,
Je ne sais pas pourquoi tu te gardes devant la mairie, parce qu'il n'y a pas assez de place de parking. Si on nous avait laissé faire le parking, tout le parking, là, on ne serait pas là. Il n'y a pas de place.
Enfin, des gens qui se garent, il y a Marie-Aimée qui se gare, effectivement.
Oui, Marie-Aimée.
Moi, je compte me garer là-haut, parce que c'est vrai que des fois, je travaille tard le soir, effectivement. Après, Benoît qui se gare pour décharger et recharger. Après, de là à créer des nuisances sonores, quand même.
Ensuite, je voulais avoir un petit point sur l'antenne, savoir où on en est.
Pas de retour, en fait.
Toujours en attente.
Ils doivent faire des études.
D'accord.
On n'a pas de retour.
Ils ont trouvé un endroit et ils vont la mettre sur la place du village.
Tu as été saisi, je pense, par deux ou trois problèmes de fosse septique qui emmerdent les autres. Tiens. Alors, moi, on m'a téléphoné aussi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi ? C'est des histoires privées.
Alors, les problèmes de fosse septique. Alors, c'est effectivement des conflits entre du voisinage, des problèmes sanitaires. Donc, en fait, on a demandé l'expertise par le SMIAJ, qui est habilité à faire des expertises sur tout ce qui est SPANC, système donc, d'assainissement non collectif. Et donc, ces expertises vont être réalisées donc, sur les deux fosses septiques qu'on nous a signalées. À savoir que ça aurait dû être réalisé avant 2012, ces expertises. Et que du coup, dans la foulée, toutes les fosses vont être contrôlées.
Ben alors,
de
y a
manière
du boulot.
À faire un état des lieux.
Alors, il y a du boulot,
c'est sûr. Et, tout à fait, il y a du boulot, mais c'est comme ça.
Ça va faire du boulot aux entreprises locales.
Voilà. Donc l'objectif, c'est de faire un état des lieux, un bilan de toutes les fosses septiques et d'expliquer aux gens qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Donc voilà. Je crois que...
J'avais juste un dernier point après, si tu permets. Mais ça c'était juste par rapport à l'école. Ah, vous savez que je suis assez fan de... Pas d'Éric, mais de sa pédagogie. Donc les gamins ont réalisé un petit, ils font des petits peignoirs régulièrement. Donc ils ont, si ça vous intéresse. Donc le dernier était sur la poésie. Donc je pense que c'est important aussi. Je ne sais pas si au niveau de la municipalité on peut mettre ça un peu en lumière. Je ne sais pas à travers qu'on pourrait faire à la salle polyvalente.
On est content d'en être informé par toi, Yvan, parce que nous, on l'a contacté, Monsieur Éric Cézrac. On lui a proposé plein de choses. Apparemment, il n'avait pas l'air très ouvert à la discussion avec la municipalité, mais je prendrai le temps d'aller le rencontrer.
Ben ouais, je pense que c'est bien.
Je suis très heureuse d'apprendre qu'il y a un petit pénois à l'école de la peine. Donc,
ça a été diffusé régulièrement quand même.
Non, mais c'est le principe en fait. Donc voilà,
d'accord.
Pas de souci.
Et pour terminer, donc avec l'école et le PNR, donc ils organisent une petite animation autour de l'art roman, donc qui est important à la peine, comme chacun sait. Et ça se passe donc la semaine prochaine. Donc à la fois avec des historiens et aussi avec une plasticienne qui va passer pour faire des moulages autour du Moyen-Âge, enfin, des choses comme ça. C'est pas le seul village qui travaille là-dessus. Au niveau du PNR, il y a d'autres villages, je crois qu'il y a Bonson. J'ai plus tout ça en tête. Ça. Voilà, c'est ça, c'est sur l'art roman. Et donc il y a une restitution qui est prévue au mois de juin.
D'accord.
Voilà, donc ça fait un peu de temps. Je ne sais pas où on en sera avec le Covid et tous ces trucs-là. Mais je pense que ce serait sympa aussi de pouvoir y penser et organiser quelque chose entre les enfants et les habitants par rapport à ça.
Alors, on est très contente que tu nous informes de tout ça. Donc, à savoir qu'on a quand même Daniel Guillaume, qui n'est pas là ce soir, mais qui est conseiller municipal délégué auprès des écoles. Et que, apparemment, tu as plus de succès qu'elle. Donc, c'est bien, en fait. On a bien compris certaines choses. Non, on c'est pas ça. On a été au contact.
Oui.
On a proposé plein de choses et on a eu que des refus assez catégoriques, voire même plutôt énervants, me concernant personnellement. Donc je suis contente de voir qu'il y a au moins quelqu'un qui passe bien avec Éric.
Voilà, chacun a ses qualités et ses défauts. Donc
des qualités et des défauts, c'est qu'à un moment, d'accord, quand tu refuses presque le dialogue, c'est bien, tu vois qu'il y a des choses qui nous remontent. Donc j'irai quand même le rencontrer, quoi. Voilà, c'est très intéressant. On est bien sûr, très ouvert à tout ce qui se fait avec l'école, bien sûr. Forcément, comme c'est quand même une école communale, on est bien ouvert à tout ce qui peut s'y faire. Voilà, donc moi je voulais quand même terminer en disant qu'on envisageait d'organiser une ou deux journées citoyennes. Donc pour terminer de nettoyer les espaces verts autour du village, donc notamment pour faire respecter l'arrêté de DECI sur le débroussaillement. Donc il y a une petite zone qui a été vue à côté du terrain de boules. Donc au-dessus, enfin, à l'arrière des garages communaux. Donc, ça a été vu aussi avec le concours de Maxou, qui nous a bien expliqué tout ce qu'on pouvait tailler, ne pas tailler, comment le faire. Et également, tout le dessous du parking, là, donc les broussailles qui sont contre le mur en haut de la para. Donc, il y aura une donc cette journée nettoyage espace vert de manière à tout terminer. Et on a aussi envisagé de faire une journée pour nettoyer l'église et la chapelle, puisqu'on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de choses à y faire. Et donc, que ça soit donc, un grand ménage, mais aussi peut-être de la peinture et tout ce qui est entretien des boiseries. Donc, on a fait le tour avec Madame Giom, on a constaté qu'il y avait quand même beaucoup de choses à faire. Et on s'est dit que cette année, ben, au printemps, avant Pâques, de préférence, on allait procéder à tout ça. Et l'idée, c'est qu'ensuite, si on peut, l'année prochaine, on dépose un dossier de rénovation de l'église et de la chapelle, de manière à englober vraiment à tout balayer à l'intérieur, c'est le cas de dire. Voilà. Donc, moi, personnellement, j'en ai terminé. La séance est clôturée à 20h34. Je vous remercie pour votre...